On commence notre étude, on est dans le livre de Ruth encore, on est rendu au chapitre 3, on avait commencé la semaine passée le chapitre 3, qui est Ruth qui cherchait le repos, Naomi qui lui avait dit qu'elle voulait assurer son repos, puis maintenant elle est allée dans l'air pendant que Boaz, c'est lui qui vannait le grain, puis dans l'air, puis le soir, c'était l'identification, elle est allée se coucher aux pieds de Boaz, après qu'il avait fini son travail. Puis c'était l'identification, comme on avait dit, l'identification comme on doit s'identifier dans la mort, dans l'ensevelissement et dans la résurrection du Seigneur Jésus. C'est qu'on va lire encore une fois, on va lire à partir du premier verset, tout le chapitre. Ça nous remet dans le contexte. Donc on lit au verset 1, Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante, étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi. L'Éternel est vivant, reste couché jusqu'au matin. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin et elle se leva avant qu'on puisse reconnaître l'un l'autre. Boaz dit, qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. Et il ajouta, donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Elle le tint et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle, puis il rentra dans la ville. Ruth revint auprès de sa belle-mère et Naomi dit, est-ce toi ma fille? Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Et elle dit, il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. Et Naomi dit, sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Seigneur va bénir la lecture de sa parole. On va demander son aide. Seigneur notre Dieu, on te remercie encore une fois pour ta bonté envers nous. Merci de nous avoir rassemblés tous ici encore ce soir ensemble. On te demande, quand on est rassemblés, Seigneur, on sait que c'est là que tu te plais à nous nourrir. Puis on a besoin, Seigneur, de cette nourriture spirituelle qui nous vient de ta parole. Merci encore une fois pour ton aide. Merci pour ton esprit qui nous dirige. Et on sait, Seigneur, que dans ta parole, il y a des grandes richesses. On sait que tous les petits détails sont importants, Seigneur, parce que elle nous illustre vraiment ton plan de rédemption pour nous. Comment tu nous as aimés, Seigneur. Comment tu as fait des choses merveilleuses envers nous. Donc, on te prie ce soir, au nom précieux de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. OK. Donc, on était rendu la semaine passée. On avait arrêté juste au point où on avait dit qu'elle descendit dans l'air. Sa belle-mère lui avait dit de descendre dans l'air. Mais comme on avait expliqué auparavant, l'air, c'était un plancher qui était un peu surélevé pour avoir le vent. Parce que pour vanner, ça prenait le vent, puis c'est à la fin de la journée. Dans une journée chaude, le soir, bien, il y a du vent. Puis de vanner le grain ou les orges ici, c'était une activité qui se faisait le soir, parce que le vent était là. Puis, c'est aussi, on avait dit que c'est Boaz lui-même qui faisait ce travail-là. Boaz, qui est un type de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui sépare la paille du grain. Comme Jean le Baptiste avait dit, que lui, il venait, il allait baptiser du Saint-Esprit et de feu. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui fait ça. Boaz avait des serviteurs qui ont moissonné, qui ont rassemblé le grain avec les gerbes. Mais maintenant, c'est lui qui fait la séparation parce que c'est lui qui connaît, il connaît ses brebis. Il sait lesquelles sont siennes, lesquelles qu'ils ne le sont pas. Et il discerne toutes ces choses. Mais comme on a dit, elle descend dans l'air. Puis si ça nous parle de l'humilité, c'est vraiment dans l'humilité, c'est question de descendre dans l'humilité. Puis c'est vraiment parce que là, elle s'identifie avec l'expérience du Seigneur de Boaz, mais qui représente pour nous le Seigneur Jésus. Mais le Seigneur Jésus, lui, s'est humilié, lui, s'est abaissé. Puis c'est là qu'on va le rencontrer. C'est pour ça qu'il nous faut s'humilier pour aller rencontrer le Seigneur Jésus. Puis on le voit dans Philippiens 2, 6, 8, comment le Seigneur s'est vraiment humilié. Puis il s'est humilié à cause de nous, pour nous. Puis dans Philippiens au chapitre 2, on voit l'humilité du Seigneur Jésus qui nous dit dans le verset, on va aller le verset 6 à 8. Il dit, peut-être on peut lire le verset 5, on est exhorté, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Donc, le Seigneur Jésus était dans l'intimité du Père. Il était depuis de toute éternité. Il était là à la création. Il était là. Il est Dieu éternel dans le sein du Père. Mais il dit, il existait en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Puis là, on pense à l'humanité du Seigneur Jésus. Comment il s'est humilié à devenir un homme. Il dit, en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, on pense au Seigneur Jésus qui était dans la félicité céleste, dans la gloire céleste de toute éternité avec le Père. Puis, il est entré dans le temps. Déjà là, d'entrer dans le temps, c'est lui qui a créé toute chose. Puis, il entre dans le temps et il vient naître comme un bébé dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie c'est un peu comme dans des chambres de visite dans les gens de Bethléem. Il n'y avait pas de place pour le Seigneur Jésus. Il est venu on l'a mis dans une mangeoire. Puis c'est tout. Puis après ça, bien, il a continué cette humilité-là jusqu'en se rendant obéissant, puis obéissant même jusqu'à la mort de la croix. Puis quand on pense à sa naissance, c'est quelque chose, je me souviens à un moment donné, quand un de nos enfants est né, ça m'avait frappé de voir, il fallait qu'elle respire tout de suite, là, parce que sans ça, puis on pense à cette fragilité-là dans la naissance, mais on sait que le Seigneur Jésus, il devait vivre, puis il a vécu, mais de s'être humilié à naître d'une femme, c'était vraiment quelque chose, mais non seulement ça, mais il était obéissant. Pendant toute sa vie, le Seigneur Jésus était un serviteur. Comme il disait, il n'était pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour tous. Seigneur Jésus n'a pas été comme des grands hommes qui sont sur la terre. Ils ont des escortes, ils ont des châteaux. Le Seigneur Jésus a pu dire, lui, qu'il n'avait pas un endroit pour reposer sa tête. Le seul endroit qu'il a eu pour reposer sa tête, c'était sur la croix, quand il est mort pour nous. Mais il a continué dans cette humilité-là jusqu'à la croix. Puis quand il est mort sur la croix, quand on réalise qui il est, on avait partagé ses vêtements, on l'a mis sur une croix entre deux malfaiteurs. Puis là, le Seigneur Jésus, il a été la risée, on s'est moqué de lui, on a dit toutes sortes de choses. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. On s'est vraiment moqué de lui. Puis le Seigneur Jésus était comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Puis il a subi, mais non seulement cela, mais aussi le Seigneur Jésus a subi le jugement que méritait. Il a été puni comme un malfaiteur. La parole de Dieu nous dit qu'il a été fait péché pour nous, lui qui n'avait pas connu le péché. Dieu l'a fait péché pour nous, pour le punir à notre place, pour nous donner maintenant la justice de Dieu. Donc, c'est toute une humiliation que le Seigneur Jésus. C'est pour ça qu'on parle de descendre dans l'air. parce que c'était pour ça que c'est comme ça que le Seigneur Jésus peut séparer ceux qui le grain de la paille et séparer ceux qui sont sauvés, parce que c'est comme ça qu'on est sauvés. Il fallait absolument que lui, il meure sur la croix. Il fallait absolument qu'il soit enseveli. Puis il fallait absolument aussi qu'il ressuscite d'entre les morts pour qu'on puisse être sauvés. C'est ça qui fait toute la différence dans toute l'humanité. Il y a vraiment il y a deux clans dans toute l'humanité. Oui, il y a des races différentes, les hommes, les femmes, mais vraiment, aux yeux de Dieu, il y a deux clans dans toute l'humanité. Il y a ceux qui ont mis leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ pour le salut de leur âme, puis il y a ceux qui ne l'ont pas mis. Il y a ceux qui suivent toutes sortes de religions ou toutes sortes d'idées, mais qui n'ont pas vraiment, ne sont jamais nés de nouveau en mettant leur confiance dans le Seigneur Jésus pour être sauvés. C'est ça qui divise tout. Ici, quand on parle du grain et de la balle ou de la paille qui va aller dans un feu qui ne s'éteint pas et le grain va être ramassé dans le grenier, c'est vraiment ça. C'est l'humiliation du Seigneur Jésus-Christ qui a fait en sorte qu'il puisse avoir cette distinction-là. Mais on est exhorté, comme on a lu au verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, quand on veut rejoindre le Seigneur Jésus, c'est dans l'humilité. Il faut s'abaisser. Il faut aller vers lui dans son humilité. Mais l'abaissement du Seigneur Jésus a amené une élévation. Quand on lit au verset 9 de Philippiens 2, il dit, c'est pourquoi, à cause de cette humilité-là, que le Seigneur Jésus, il s'est humilié de cette façon-là, il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Puis en tant qu'homme, le Seigneur Jésus est encore un homme aujourd'hui. Il est devenu un homme, puis il demeure un homme pour toute l'éternité. Mais maintenant, en tant qu'homme, il a été et souverainement élevé et lui a donné un nom, le nom qui est au-dessus de tout nom. Il y a des noms qui sont importants pour des gens, de différentes personnes qui ont des noms, mais il n'y a aucun nom qui est aussi important que le nom du Seigneur Jésus. Et il dit, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dans le ciel, sur la terre, puis ceux qui sont vivants, ceux qui sont morts, ceux qui vont venir, il y a le nom le plus grand, c'est le nom du Seigneur Jésus. Il dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. C'est lui, c'est Dieu, le Père, qui le fait Seigneur et Christ. Mais un jour, il va falloir que tous reconnaissent. Même ceux qui sont perdus, ils vont avoir un jour à reconnaître que le Seigneur Jésus, c'est lui qui est élevé au-dessus de tout nom. Puis il va falloir que tout genou fléchisse et que toute bouche confesse. Nous qui sommes sauvés, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, ils ont fléchi le genou devant lui et ils ont confessé qu'il était le Seigneur, qu'il était le Christ, que le Seigneur nous avait envoyé pour nous sauver. Mais cette expérience-là du Seigneur Jésus, c'est vraiment le contraire de ce que Satan, lui, a expérimenté. Si on va dans Ésaïe 14, on voit que Satan, lui, il a fait le contraire. Satan, qui était un ange de lumière, qui était une création de Dieu, Satan n'est pas éternel, il a été créé par Dieu, mais Satan a voulu, Lucifer a voulu devenir plus grand que Dieu. Puis on voit dans le chapitre 14 d'Ésaïe, au verset 12, qui nous parle de Satan ici, Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Lui, au lieu de descendre, il voulait monter. Il dit, tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai. Il y a toujours dans cette idée-là là, de monter, de s'exalter. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais c'est lui le résultat de son ascension qu'il voulait faire, ben, il dit, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? C'est lui qui a été abattu. était descendu. Puis on sait que la fin, la destination finale pour l'éternité de Satan, ça va être l'étang de feu. On voit dans l'Apocalypse au chapitre 20, il a été jeté dans l'étang de feu pour l'éternité. Donc, vraiment, le chemin vers le haut passe par le bas. Mais si tu passes, si tu essaies de monter, tu vas être abaissé. Ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel ont compris ça. Puis c'est pour ça qu'il n'y a personne, toute bouche va être fermée, il n'y a personne qui va s'enorgueillir ou se glorifier devant Dieu. Tous ceux qui vont être au ciel, ils vont tous pouvoir dire, moi, j'étais un pécheur perdu, mais Christ m'a sauvé de mon péché. Puis c'est lui qui m'a fait asseoir avec les grands dans les cieux. Parce que ceux qui vont être dans le ciel vont dire, a fallu qu'on descende, a fallu qu'on aille rencontrer le Christ dans son expérience d'humilité pour être remonté avec lui. On avait parlé de ça la semaine passée. Quand on est identifié avec lui dans sa mort, on est devenu une même plante avec lui dans sa mort. Il nous fallait mourir parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais quand il a été enseveli, on a été enseveli avec lui, mais étant une même plante avec lui, quand il est ressorti du tombeau, quand il est ressuscité, bien, on est ressuscité aussi en nouveauté de vie. Donc, on s'est identifié dans l'expérience du Seigneur Jésus. Le Seigneur nous a dit, celui qui s'abaisse va être élevé, celui qui s'élève va être abaissé. Dans Luc au chapitre 18, au verset 14, il dit, je vous le dis, il parle du publicain et du pharisien. Le pharisien, il priait, puis le publicain aussi qui était monté au temple pour prier, il dit, je vous le dis, celui-ci, le publicain, descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, le pharisien, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc, c'est là qu'on voit le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit ici, là. Donc, c'est dans l'abaissement qu'on trouve l'élévation, puis dans l'élèvement, on trouve l'abaissement. C'est que c'est le contraire. Des fois, des gens qui disent, on est comme un arbre à l'envers sur cette terre, parce que on a nos racines dans le ciel, on porte notre fruit sur la terre. Mais ce n'est pas parce qu'on est à l'envers, c'est le monde qui est à l'envers. Nous, on a nos racines dans le ciel, mais on porte notre fruit sur la terre. Donc, c'est ça qui est important de comprendre, que il faut s'abaisser pour pouvoir être élevé. Puis ça, c'est un principe, puis ça continue toujours tout au long de notre vie chrétienne. Plus on s'abaisse, comme Jean le Baptiste a pu dire, il faut que moi, je diminue et que lui, il grandisse. Fait que c'était ça le ministère de Jean le Baptiste. Lui, il a disparu pour laisser la place au Seigneur Jésus. Puis c'est notre expérience à nous aussi. Il faut que nous, on disparaisse dans notre vie. Il faut qu'on disparaisse pour que le Seigneur Jésus devienne évident dans nos vies. Comme Paul pouvait dire, moi, si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Puis il dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça que notre expérience chrétienne, c'est qu'il faut que nous, on diminue constamment. On devienne de moins en moins ce qu'on était avant, puis de plus en plus ce qu'on va être pour l'éternité, c'est-à-dire ressembler au Seigneur Jésus. Donc, comme on voit ici, elle avait dit de l'observer jusqu'à ce que. Peut-être on va retourner dans Ruth, où elle dit Naomi lui avait dit au verset 3, lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et boire. Donc, il fallait que Ruth, quand elle arrivait dans l'air, il fallait qu'elle observe jusqu'à temps qu'il ait terminé, qu'il ait achevé. Le Seigneur a vécu une vie parfaite. Il y avait des choses à accomplir, puis il a tout accompli ce qu'il devait accomplir dans sa vie. Ces 33 ans et quelques que le Seigneur Jésus était sur la terre, il a tout accompli. Quand il était chez ses parents, il leur obéissait, il a vécu sa vie on parle des années secrètes du Seigneur Jésus. Ensuite de ça, dans sa vie publique, il a accompli tout pour pouvoir dire sur la croix, avant de mourir, tout est accompli. Vraiment, sa vie était parfaite. Puis quand il a fini d'accomplir ce que le Père lui avait donné d'accomplir, Dans Luc 13, au verset 31 et 30 à 33, il dit: Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire: Va-t'en, pars d'ici, ça c'est au Seigneur Jésus, car Hérode veut te tuer. Il leur répondit: Allez, dites à ce renard, en parlant d'Hérode, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Donc le Seigneur Jésus, il était invincible, le Seigneur Jésus. Personne ne pouvait, on sait qu'il y a des fois, ils ont voulu mettre la main sur lui pour le tuer ou le précipiter en bas de la montagne, mais son temps n'était pas arrivé. Puis il était impossible que le Seigneur Jésus ne finisse pas son travail qu'il avait à accomplir sur la terre. Puis il l'a accompli parfaitement, en tout point. Il a pu dire dans Jean 17, au verset 4, en parlant au Père, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Ça, c'est tellement important de comprendre que le Seigneur Jésus a accompli parfaitement, au complet, toute l'œuvre que le Père lui avait donnée à faire. Donc, c'est impossible que le Seigneur meure. D'un côté, le Seigneur était immortel. Parce que c'est ceux qui ont péché qui meurent. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le Seigneur Jésus, lui, il a choisi de mourir. Il s'est fait homme pour pouvoir mourir. Puis, comme il dit, quand il dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Vous savez, nous autres, on n'est pas obéissants dans la mort, on n'a pas le choix. Quand la mort frappe à la porte, il faut y aller. Mais le Seigneur Jésus, lui, il a pu dire, personne ne m'ôte la vie. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Puis quand le Seigneur Jésus était sur la croix, c'est lui-même qui a remis son esprit entre les mains du Père. Il a dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Puis là, il est décédé. Puis même, ils étaient étonnés qu'il soit décédé si tôt. Mais avant de décéder, il a lâché un grand cri. Tout est accompli. Puis après ça, il a rendu l'esprit. Fait que c'est la mort du Seigneur Jésus est différente de la nôtre. Puis nous, on n'est pas obéissant dans la mort, on n'a pas le choix. Mais lui, il était obéissant dans la mort. Il a donné sa vie. Le Seigneur Jésus, après avoir tout accompli, comme on a dit, dans Jean 19, 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, même ça, c'était un détail qui avait été dit qu'il fallait qu'il fasse, il a pris le vinaigre et il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Ça, c'est Seigneur. Mais nous, c'est pour ça que maintenant, on peut s'identifier avec une œuvre complète. Puis, vous savez, dans la religion, on nous dit, il faut faire ceci, il faut faire cela, puis on ne sait jamais quand est-ce qu'on a assez fait. Parce que, en fait, la religion, c'est un petit peu comme une échelle qui monte vers le ciel. Puis, on nous dit, faut gravir les échelons pour se rendre au ciel. Mais on ne voit pas le bout de l'échelle. On continue à gravir, puis on continue à gravir pour arriver au bout de l'échelle, en haut, pour s'apercevoir qu'elle ne rejoint pas le ciel. Fait que imaginez-vous d'arriver au bout de cette échelle-là, puis s'apercevoir qu'il n'y a plus d'échelon, mais ça ne monte plus, puis ce n'est pas encore rendu. Mais nous, quand on met notre confiance dans l'œuvre parfaite, complète du Seigneur Jésus, c'est pour ça qu'on a une grande assurance. On s'identifie avec cette œuvre-là qui est parfaite, puis c'est ça qui nous donne une grande assurance. Au verset 4, il dit, et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Donc, elle devait observer où il se couchait. Elle devait découvrir ses pieds pour se coucher. Puis, on va voir tantôt quand on va avancer, les pieds, c'est important dans toute la situation parce qu'il y avait la question du soulier. On va voir ça en avançant. Mais aux pieds, c'était là qu'elle recherchait vraiment. Qu'est-ce qu'elle recherchait, comme Naomi lui avait dit, c'est son repos. C'est son repos. Son repos, ben, c'était la postérité. C'était de continuer la postérité de son mari. Puis c'était ça son repos. Mais elle devait découvrir ses pieds. Puis c'est une belle place à aller aux pieds du Seigneur Jésus. Il y a un cantique qui dit, Jésus, ta sainte présence, c'est ça le titre. Il dit, à tes pieds, c'est là ma place. près de toi, mon ciel est bleu. C'est toujours question d'humilité, là. C'est pas, on est au pied du Seigneur Jésus. Pourquoi? Ben oui, parce qu'il est tellement grand. Il est tellement merveilleux. Notre place à ses pieds, c'est une place de choix. C'est une place, c'est là qu'on trouve tout le repos qu'on a besoin. Puis c'est ça que, c'est là que Ruth va trouver aussi le repos qu'elle recherche. Donc, l'identification dans la mort, l'ensevelissement du Seigneur Jésus, c'est le début d'une vie nouvelle. Puis c'est ça qui fait en sorte que quand quelqu'un se convertit au Seigneur, quand il passe par cette mort dans le baptême, dans la mort du Seigneur Jésus, dans l'ensevelissement du Seigneur Jésus, puis dans la résurrection du Seigneur Jésus, on est ressuscité pour vivre une vie nouvelle. On vit plus dans l'ancienne vie. Maintenant, on vit d'une vie nouvelle. On vit de la vie de Dieu. Comme on lit dans la parole de Dieu, car nous sommes, Éphésiens 2:10, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, à partir de ce moment-là, c'est une nouvelle vie qu'on va vivre. C'est pour ça qu'elle dit, il te dira lui-même ce que tu as à faire. C'est ça, quand le Seigneur est devenu notre Seigneur, ben c'est lui maintenant qui dirige notre vie. Par son esprit qui habite en nous, c'est lui qui dirige une vie, puis c'est une vie nouvelle. Comme il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pour ça que les gens du monde, quand ils voient quelqu'un qui s'est converti, ils voient quelqu'un qui est transformé. Paul pouvait dire, j'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Donc, c'est une nouvelle vie qui commence. Puis moi, je suis tellement content que ma vie a changé dans ce moment-là, parce que je ne sais pas où je serais rendu aujourd'hui, si j'étais encore sur la terre. Mais vraiment, je regarde, ça fait 44 ans que je suis avec le Seigneur Jésus, puis c'est vraiment une vie merveilleuse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des problèmes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des difficultés, des tristesses, des grandes épreuves des fois, mais avec lui, à tes pieds, c'est là ma place, près de toi, mon ciel est bleu. Puis c'est vrai qu'à travers n'importe quelle circonstance, la présence du Seigneur est toujours chère pour, puis c'est lui qui nous dirige. Quand on fait sa volonté, je dis ça souvent, on est le parfait match pour la vie que lui a préparée d'avance. Il nous a fait pour la vie qu'il a préparée d'avance pour nous. C'est pour ça qu'avant d'être à lui, on est brisé parce qu'on ne vit pas la vie qu'on devait vivre. Puis la vie nous brise. Mais quand on est au Seigneur Jésus, là, quand on marche dans son plan qu'il a pour nous, c'est une vie merveilleuse. Puis c'est un peu comme quand il voulait un prophète qui allait pleurer sur le peuple, il a fait Jérémie. Il l'a fait un prophète de pleurs, un prophète de larmes. Puis il a fait chacun de nous pour un but. Quand on n'est pas sauvé, on n'est pas dans le but de Dieu. C'est pour ça que ça va pas bien. C'est pour ça qu'on a des problèmes. C'est pour ça qu'à la fin, notre vie aura aucune valeur. Mais dans la parole de Dieu, il nous parle des œuvres mortes. Mais quand on est au Seigneur Jésus, là, on peut faire les œuvres de Dieu, parce qu'il nous a donné la vie pour qu'on puisse la vivre à la gloire de son nom. Puis c'est la meilleure vie qu'on peut vivre. C'est la vie qu'il nous a préparée pour nous. Paul pouvait dire dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Oui, mais Paul, depuis que tu es sauvé, que tu as été persécuté, puis tu as été lapidé, puis tu as fait naufrage, puis tu as été dans la prison, puis tu as été battu de verge, mais ça valait la peine. Parce que sa vie était à la gloire du Seigneur Jésus. Puis Paul était persuadé qu'il en valait la peine. Puis Paul n'aurait jamais changé sa vie. Il l'a vécu pour le Seigneur Jésus parce que le Seigneur Jésus s'était donné lui-même pour lui. Puis c'est ça qui est merveilleux. Donc, Ruth, il te dira lui-même ce que tu as à faire. Mais on voit que Ruth avait cette habitude-là. Hein? On voit que quand Naomi lui dit de faire telle chose, elle dit qu'elle va le faire, puis elle fait exactement comme il a dit, puis elle va écouter aussi Boaz. Il va lui donner des instructions, puis elle va l'écouter, puis ça va être pour son repos. Ça va être pour sa grande bénédiction. Vous savez, obéir au Seigneur, c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Quand on désobéit, c'est la pire chose qu'on peut faire. Mais quand on obéit au Seigneur, c'est vraiment la meilleure chose. Donc, dans le verset 5 et 6, Naomi lui avait dit quoi faire, puis elle lui répondit au verset 5, je ferai tout ce que tu as dit. Puis il y a des gens qui disent ça, hein, oh oui, je vais obéir. Mais le Seigneur parlait de deux fils, de deux serviteurs. Il dit, va à ma vigne. Puis lui, il dit, oui, je vais y aller, mais il n'y va pas. Puis l'autre, il a dit, non, j'y vais pas. Puis après ça, il s'est repenti, puis il est allé. Puis le Seigneur, il dit, c'est lequel qui a fait la volonté? Ben, c'est celui qui s'est repenti. C'est pas celui-là qui avait dit qu'il allait la faire, puis qu'il ne l'a pas faite, mais c'est celui-là qui avait dit qu'il n'allait pas la faire, puis qui s'est repenti, qu'il l'a fait. C'est lui qui a fait la volonté. Puis ici, elle dit, elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Puis au verset 6, elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Donc, Ruth, elle va être obéissante. Elle va être obéissante, elle obéit à sa belle-mère parce que son obéissance va lui donner le repos. Puis on trouve repos dans l'obéissance. Dans la désobéissance, il n'y a pas de repos, mais dans l'obéissance, on trouve le repos. Au verset 7, elle dit, Boaz mangea et but et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Donc elle observe afin de savoir quand elle doit agir. Parce qu'il y a un moment précis où elle doit agir. Et quand elle doit agir, et maintenant vient le temps d'agir. Vous savez, des fois, on va faire quelque chose, puis c'est quelque chose de solennel. Puis là, on attend le moment précis pour rentrer en scène, puis faire l'action qu'on doit faire. Puis on peut avoir le trac, on peut être nerveux par rapport, mais quand le moment vient, c'est le temps de le faire. Puis elle, quand le moment est venu, bien, elle s'est couchée à ses pieds, mais c'était le temps d'agir, elle s'est couchée à ses pieds. Puis là, elle va réclamer de la part de Boaz qu'il agisse selon la loi donnée. De la loi de Dieu qui a été donnée à Moïse. Fait que, on dit, bon, c'est un peu prétentieux, là. Elle va le dire à Boaz quoi faire. Ben, c'est parce que c'était selon la loi de Dieu. On va aller dans Deutéronome au chapitre 25. Il y avait, puis Naomi était sûrement au courant de cette chose, Boaz aussi, et Ruth l'avait sûrement appris parce qu'en obéissant à sa belle-mère, puis c'était ce que Dieu demandait. C'est pour ça qu'elle peut réclamer maintenant, c'est la promesse de Dieu qu'elle réclame. Puis, il nous dit dans Deutéronome 25, au verset 5, il dit, lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Ça, c'est la situation à Ruth. Son mari est mort. Elle n'a pas eu d'enfant. Même Élimélec, ses deux garçons sont morts, donc il n'y a plus de postérité. Et elle est le seul lien maintenant pour produire cette postérité-là. Puis ici, elle est dans cette situation-là, puis elle ne doit pas aller se marier au dehors. Ruth aurait pu dire, ah, moi, je m'en fous, je vais aller me trouver quelqu'un pour me marier. Non, Ruth avait compris l'importance qu'elle ne pouvait pas se marier avec n'importe qui. Elle devait vraiment suivre la loi de Dieu, puis elle va exiger, elle va réclamer cette chose-là. Il dit, le premier-né qu'elle enfantera, au verset 6, succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montera la porte vers les anciens et dira, mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère, il ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. S'il persiste et dit, je ne veux pas la prendre, voyez-vous, il était dans l'obligation. Ce beau-frère-là, ce proche parent-là, était dans l'obligation de relever le nom du défunt. C'était la loi de Dieu. Il devait le faire pour continuer la postérité. Et il dit, alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage. Et prenant la parole, elle dira, ainsi sera fait à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère. Et sa maison sera appelée en Israël la maison du déchaussé. Donc, on avait parlé des pieds, c'est important, hein? Mais ici, elle est allée se coucher aux pieds pour réclamer, aux pieds de Boaz, pour réclamer qu'il agisse envers elle selon la loi. et pouvait le réclamer. Puis on voit là-dedans comment c'est important. L'œuvre du Seigneur Jésus-Christ de rachat était vraiment importante. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Puis, quand on pense à Jean 3, 16, la plupart du temps, on y pense de notre point de vue à nous. Puis c'est merveilleux. Mais Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils. Mais si on le voit du point de vue du Seigneur Jésus-Christ, que Dieu a tant aimé le monde, le Seigneur Jésus a dit, c'est un peu comme le Fils qui aime le Père d'un si grand amour qui est prêt à se donner pour accomplir le désir du Père. Le désir du Père, c'était d'avoir des rachetés dans sa présence pour l'éternité. Il avait créé l'homme pour sa gloire. Il voulait partager l'éternité avec l'homme. Mais le péché, Satan, en entraînant l'homme dans le péché, il avait gâché Puis le Père désire quand même. Dans le moyen de rédemption, le Seigneur Jésus, quand il dit, qui enverrai-je? Seigneur Jésus dit, me voici, envoie-moi. Puis c'est vraiment un acte d'amour ultime envers le Père que le Seigneur Jésus s'est donné pour nous sauver. Oui, il nous a aimés, il s'est donné pour nous aussi. Mais vraiment, son désir était d'accomplir la volonté du Père. Puis on voit que c'était important pour donner une postérité. Pour nous, on peut voir, c'est qu'il est une humanité dans la présence de Dieu pour l'éternité. Puis c'est ça qu'elle demandait ici. Là. Dans Deutéronome, il nous demande d'avoir une postérité ici. Là. Puis elle prend au sérieux la postérité, l'héritage. Puis Boaz remarque ce trait-là. Des fois, on se demande, c'était-tu correct? Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est d'aller se coucher aux pieds durant la nuit, d'aller se coucher aux pieds de Boaz. Mais c'était vraiment juste et saint. Qu'est-ce qu'elle a fait? Boaz le remarque, voyez-vous, au verset 10 ici, il dit, et aussitôt qu'elle lui a dit, au verset 9, elle répondit, je suis Ruth, ta servante, étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Puis Boaz, il remarque ça tout de suite. Regardez au verset 10, tout de suite, il réplique. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Qu'est-ce qu'il voit en elle, c'est que elle avait vraiment à cœur la postérité, là. Puis elle n'a pas été chercher des jeunes hommes pauvres ou riches, elle est allée vers Boaz. C'est seulement lui qui pouvait, on va le voir, c'est lui, il y en avait un autre avant, on a parlé de ça, on en parle encore. Mais c'était Boaz. Elle est allée vers Boaz parce qu'elle voulait, elle avait à cœur la postérité ici. C'était vraiment important. Puis il dit ce dernier trait. Donc il parle d'un autre trait qui l'avait impressionné. Mais il y en avait un autre dans le chapitre 2 au verset 11. Il y avait le premier trait ici qu'on voit. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Donc, c'était le premier pas, parce que si Ruth avait fait comme Orpa, sa belle-sœur, puis qu'elle serait retournée vers son peuple, la postérité se serait éteinte là. Mais du fait qu'elle est venue, on voyait que ça donnait la possibilité pour donner une postérité à Maclon ou Élimélec et Maclon, son fils. Puis on voit que c'était important tout ça pour Naomi, pour Ruth. Puis là, il dit, ce trait-là, il l'avait impressionné. Mais là, le dernier trait qu'elle est venue demander à Boaz, Boaz n'était pas offensé qu'elle lui demande ces choses-là. Ça démontrait vraiment le sérieux de Ruth et il était content de voir ça. La conduite de Ruth était irréprochable dans ce geste-là. Là. Des fois, on est porté à penser, ben oui, mais là, elle est allée se coucher à ses pieds dans la nuit. Non, c'était vraiment quelque chose. Puis dans Scofield, il y a une note en rapport avec le verset 9. Du chapitre 3, puis il dit ici, on doit interpréter cet acte de Ruth à la lumière des coutumes de l'époque. On a lu dans Deutéronome 25, dans la loi de Dieu. Il dit, c'était évidemment un moyen pour faire comprendre à un proche parent, qui est le Goël, qu'on avait dit, le proche parent, celui qui a le droit de rachat, qu'il n'avait pas seulement le droit, mais le devoir de s'engager légalement à assumer sa responsabilité. La conduite de Ruth était irréprochable, comme le montre Boaz par son accueil, sa protection et ses propos prouvent qu'il appréciait ses qualités et son caractère. C'est ce qu'on a lu dans le chapitre 10, dans le verset 10, c'est-à-dire. Donc, il y a, mais on voit ici qu'il y avait une attente de Ruth. Puis, il y a un terme qui revient à plusieurs reprises, de la façon que Ruth est appelée dans le livre de Ruth, il y a un terme qui lui revient à maintes reprises de la part de Naomi, mais aussi de la part de Boaz. Naomi l'appelle comme ça, puis Boaz aussi l'appelle comme ça. C'est intéressant, mais dans le chapitre 4, il ne l'appelle plus comme ça, mais au début, il l'appelle ma fille. Naomi appelle Ruth ma fille. Puis Boaz aussi l'appelle ma fille. Alors, la première fois, ben, au début, c'était au pluriel. C'était dans le premier chapitre, les versets 11, 12, 13, Naomi appelait Ruth et Orpa mes filles. Mais on sait que Orpa est retournée en arrière. Mais Ruth a continué, mais Ruth a gardé le titre d'être appelée ma fille. Après ça, c'est au singulier, toujours parce qu'il reste juste Ruth. Orpa est partie. Puis dans le chapitre 2, au verset 2, Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Et elle lui répondit, va, ma fille. Dans le verset 8, elle dit ici, Boaz dit à Ruth, écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Dans le verset 22, et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille. Que tu sortes avec ses servantes. Donc, Ruth l'appelle encore ma fille. Dans le chapitre 3, au verset 1, Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos. Dans le verset 10, c'est Boaz, comme on a lu tantôt, il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Dans le verset 11, et maintenant, ma fille, ne crains point, je ferai tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Au verset 16, il dit ici, Ruth revint auprès de sa belle-mère et Naomi dit, Est-ce toi ma fille? Puis dans le verset 18, et Naomi dit, Sois tranquille, ma fille. Puis dans le chapitre 4, il va dire qu'il l'a pris pour femme. Mais quand on pense à ce terme-là, ma fille, ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ce terme-là, c'est le féminin. Qu'est-ce qui est traduit par ma fille? C'est Bat. C'est le féminin de Ben. Le féminin de Ben. Puis Ben, on connaît bien le nom de Ben. Ben, c'est un fils. Là, c'est ma fille. C'est le féminin. C'est ma fille. Mais pourquoi le féminin? Ben, ça veut dire, là, c'est vraiment le féminin. Ça veut dire, Ben veut dire, c'est un fils qui construit le nom de la famille. C'est un fils qui construit le nom de la famille. C'est le fils qui va propager le nom de la famille. C'est lui qui va bâtir la maison de la famille. Parce que, vous savez, si quelqu'un avait pas d'enfant, ben son nom s'éteignait là. Ça faisait pas une famille. Ça mourait là. Mais quand un homme avait un garçon, ben ce garçon-là continuait le nom de la famille. Puis on sait, comme pour Jacob, ben Joseph était celui qui allait bâtir la maison. Non seulement il a apporté deux tribus en Israël, mais aussi il a été en bénédiction à toutes les tribus. Parce que son nom, c'est ça qui c'est comme dans la bénédiction de Joseph, sa bénédiction s'étendait au-delà du mur, non seulement pour les tribus d'Israël, mais aussi pour toutes les nations. Quand on voit dans Genèse 37 au verset 2, on voit ici, il dit, Voici la postérité de Jacob. Puis c'est étonnant, vous savez, quand on lit la postérité d'Ésaü, la postérité des... On voit qu'il commence à nommer les noms. Mais ici, quand il dit dans Genèse 37 au verset 2, Voici la postérité de Jacob, il dit, Joseph âgé de 17 ans. Ouais, là, il parle de Joseph. Mais c'est quoi? Comment ça qu'il dit Joseph âgé de 17 ans? Ben, quand le mot âgé, qui est traduit par âgé dans Genèse 37 au verset 2, c'est le mot Ben. C'est un fils. C'est le fils qui est celui qui va bâtir la maison. C'est celui qui va propager le nom, qui va faire en sorte que c'est une famille qui va être ici. Donc, c'est la famille de Jacob. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent que Jacob préférait Joseph. Il faut faire attention parce que Joseph est un type du Seigneur Jésus, puis c'est certain que le Seigneur Jésus est le fils unique du Père. C'est celui, mais le fils unique du Père, c'est celui qui bâtit la maison du Père. Puis quand Jacob a choisi Joseph, il l'a choisi en vue de la bénédiction de toute sa maison. Puis ses frères, au lieu de mépriser Joseph, il aurait dû observer les couleurs de sa tunique. Parce que les couleurs de sa tunique, de plusieurs couleurs, c'était comme toutes des facettes de la gloire de Joseph. Puis c'est pour nous autres aussi, on n'est pas envieux du Seigneur Jésus, parce que c'est en lui qu'on a toute la bénédiction. On fait bien d'observer toutes les facettes de la gloire du Seigneur Jésus dans sa parole. Puis quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Ses frères, à travers une expérience douloureuse, vont finir par reconnaître que Joseph était celui qui pouvait les bénir. Parce que s'il n'avait pas eu Joseph, il n'aurait pas survécu, parce qu'il serait mort de faim. Mais c'est Joseph qui les a bénis, en dépit de la façon qu'eux, ils l'avaient traité. Joseph, on voit qu'il était à la hauteur, que Jacob avait bien vu que c'est Joseph qui était celui qui pouvait porter qui était assez solide pour porter la bénédiction de toute sa maison. Puis c'est ce qui est arrivé, on l'a vu par la suite. Donc ici, quand on pense à Ruth ici, ben là, la postérité était attachée à elle, parce que c'est elle maintenant, c'est la fille qui allait bâtir la maison. Ben ça c'est encore là, on voit le rôle de la femme, comment Dieu a donné un grand rôle à la femme. Maintenant, les hommes sont tous morts. On avait dit ça au début. Les hommes représentent la communion. La communion était perdue, mais la relation, elle, ne peut pas se perdre. C'est ce que les femmes représentent. Ils représentent la relation. Puis là, maintenant, Ruth va être, elle doit être utilisée pour continuer le nom d'Élimélec. Parce que si elle n'avait pas continué, si Ruth n'était pas là, ça serait terminé. Élimélec, son nom serait mort. Mahlon, son nom serait mort. Puis il n'y aurait pas eu de postérité. La famille, elle serait morte là. Mais maintenant, c'est Ruth qui est la fille. C'est elle qui est le nom qui va bâtir la famille. Puis on va le voir dans le chapitre 4, parce que le nom va continuer, la lignée va continuer à travers Ruth. Puis là, on voit comment c'était devenu, rendu à un point tellement fragile. Mais Ruth était là. Puis Ruth n'a pas cherché d'autres choses. Elle a cherché celui qui pouvait restaurer la postérité. C'est pour ça qu'il lui dit, t'as pas cherché comme il dit ici, tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Tu as recherché celui qui pouvait ramener la bénédiction dans la famille, celui qui pouvait racheter. C'est ça que Boaz était tellement impressionné par ça de la part de Ruth. Comment c'était une étrangère. Puis comment ça se fait qu'elle avait tellement à cœur cette postérité-là? Ben, c'est parce qu'à cause de ce qu'elle a appris de Naomi, c'est à cause de ce qu'elle a appris de la loi de Dieu, que ben, c'était important, puis elle était épris de ce désir-là, puis c'est pour ça qu'elle pouvait commander à Boaz, étends ton aile sur ta servante, parce que tu as droit de rachat, puis c'est toi qui dois nous racheter, puis il faut que tu nous rachètes. Puis ça, c'était vraiment, ça décrivait vraiment son état d'esprit, comment elle était tellement imprégnée de la volonté de Dieu, comment elle était entrée dans cette volonté-là ici, là. Puis on voit qu'elle va être utilisée par le Seigneur pour ça. Dans le chapitre 4 au verset 11, il dit, tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins, que l'Éternel, parce qu'il avait pris, il l'avait pris pour femme, que l'Éternel rende ta femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Éphrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Donc, il dit que cette femme-là, Ruth, qui rentre dans ta maison, bien, qu'elle devienne comme Rachel et Léa, parce que c'est eux autres qui ont construit la maison la maison d'Israël. C'est eux autres. Si ça n'avait pas été de Rachel et Léa, il n'y aurait pas eu, Jacob n'aurait pas eu de postérité. Donc, là, il la compare à elle. Puis ensuite de ça, ils disent au verset 12, puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Pérès qui fut enfantée à Juda par Tamar. Encore une fois, là, Dieu a utilisé une femme, puis le fils de Juda était mort, puis il a donné son autre fils pour justement accomplir ce que la loi disait, puis l'autre est mort aussi. Ensuite de ça, pas Jacob, mais Juda n'a pas voulu donner son troisième fils parce qu'il avait peur qu'il meure. Mais Tamar s'est déguisée en prostituée, puis elle a été vers Jacob. Puis Jacob est allé vers elle et elle a donné une postérité, elle aussi. Puis Pérets et cette postérité-là. Puis là, ils disent les autres que ils parlent de que cette jeune femme rende ta maison semblable à la maison de Pérets qui fut enfantée à Juda par Tamar. Puis ça va être au-delà de cela parce que de lui va naître David, de qui va naître le Christ. Au verset 15, il dit, cet enfant restaurera ton âme, et ça, il dit ça à Naomi, cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. Et vous, comment c'était important ici, là? Ben, Ruth, elle comprenait l'importance de son rôle et elle l'a pris vraiment au sérieux. Puis c'est ça le trait que Boaz a pu voir en elle. Puis on va s'arrêter là pour ce soir. Le temps est arrivé. Il y a tellement de choses à dire qu'on avance tranquillement, mais c'est tellement merveilleux toutes ces choses-là, comment le Seigneur nous montre des choses magnifiques. Mais c'est tout beau. Ça nous représente le salut que Dieu nous a pourvu dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Puis vous savez, dans l'éternité, le Seigneur, il va dire, il va voir le travail de son âme, puis il va se réjouir, il va être satisfait. Parce qu'il dit aussi, hein, me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Il va nous emmener, il va nous introduire dans la maison du Père, puis ça va être merveilleux. Le Père va être heureux de nous avoir rachetés dans sa présence. Puis c'est ça qu'on voit là-dedans. Ça fait que je m'arrête là, puis je vous donne la possibilité de reprendre votre micro. Si vous avez des problèmes, laissez-moi savoir. Mais là, vous pouvez prendre votre micro si vous avez des commentaires, si vous avez des questions.
Gérard, de chaque
Merci.
fois que j'ai lu cette partie-là, je me suis toujours demandé, historiquement parlant, est-ce que cette coutume, c'était une coutume, puis qu'est-ce que ça signifiait, cette coutume-là, d'aller coucher aux pieds, de découvrir les pieds d'un homme, puis de coucher à ses pieds. Je me demandais si c'était une coutume courante ou si c'était, historiquement parlant, qu'est-ce que ça voulait dire?
Ben, c'est ça, comme on a dit, là, il fallait que le beau-frère rachète. Il n'y avait pas le choix. Il fallait qu'il rachète. Puis s'il ne rachetait pas, on lui ôtait son sou elle lui ôtait son soulier, puis elle lui crachait au visage. Puis là, on appelait sa maison la maison du déchaussé parce qu'il n'avait pas voulu. Puis c'est ça qu'en allant se coucher aux pieds de Boaz, ben, c'est ça qu'elle invoquait, là. Elle invoquait cette loi-là qu'on a lue dans Deutéronome 25. Il fallait qu'il fasse. Puis elle réclame. Naomi avait dit qu'elle voulait assurer son repos, mais son repos était là. Il fallait
Mais
absolument que.
c'est pas une coutume courante, là.
Ouais, c'est ça. C'est ça
Ben,
qu'on.
OK.
Ouais, c'est ça. Puis ça nous représente pour nous autres aussi. À ses pieds, c'est là ma place près de toi, mon. À tes pieds, c'est là ma place près de toi, mon
Ouais.
ciel est bleu. Puis ça nous rappelle toujours l'humilité dans la présence du Seigneur Jésus.
D'accord. Ben, merci.
Ce n'est point par les œuvres, fait que personne ne se glorifie. C'est toujours l'effet de sa grâce, de sa miséricorde.
Moi, j'aurais une question concernant la postérité et les coutumes, justement. Dans les pays christianisés, habituellement, quand il y a un enfant, il porte le nom du père. Est-ce qu'on peut dire que cette coutume-là Est-ce qu'on a raison de dire que cette coutume-là, finalement, vient de la parole de Dieu?
Oui, parce que dans un sens, on voit que la postérité, on parle toujours de la postérité de l'homme. C'est la postérité de l'homme, mais quand on arrive au Seigneur Jésus, lui, il est la postérité de la femme. Mais c'est l'homme qui transmet, la femme porte l'enfant, mais c'est la postérité de l'homme. Mais on voit qu'aujourd'hui, ça s'est remis en question, là. Par la société aujourd'hui qui rejette les choses de Dieu. Mais c'est sûr qu'il y a eu des abus dans le rôle de la femme, dans la génération avant. Surtout, on voit qu'il y a eu des abus, comment les hommes, on n'a jamais été enseigné comment traiter leurs femmes de la façon qu'ils devaient le faire. Il y en a qui l'ont traité, ils ont traité leurs femmes comme il faut, c'est tellement beau. Mais il y en a qui n'ont pas bien traité leurs femmes. Puis ça a fait une réaction inverse qu'on connaît aujourd'hui, le féminisme qui est arrivé. Puis là, ben, c'est l'exagération dans l'autre sens. Mais encore là, il y a encore des gens, il y a des femmes qui rentrent dans leur rôle, que le mari va prendre soin de sa femme comme Christ a aimé son Église. Il va l'aimer comme Christ a aimé son Église. Il s'est livré lui-même pour elle. Puis la femme va se soumettre à un mari comme ça. Puis les enfants apprennent la soumission. Si on regarde dans la société dans laquelle on vit présentement, qui a rejeté cet ordre-là et s'est révolté dans le féminisme, les enfants sont désobéissants. Hein, puis il dit, hein, dans les derniers jours, les enfants seraient désobéissants à leurs parents. Ben oui, mais ils n'ont pas appris à la maison. Comment est-ce qu'on apprend l'obéissance? Ben, c'est pas que le fait que la femme est inférieure à l'homme, mais quand elle se soumet, comme le Seigneur Jésus s'est soumis au Père, ben, elle démontre aux enfants que l'autorité, on doit obéir à l'autorité. Puis la femme qui n'obéit pas à son autorité démontre à ses enfants à être rebelle à l'autorité. Puis c'est pour ça que depuis que le féminisme est arrivé, on voit qu'il y a beaucoup de désobéissance. Puis elle ne détruit pas seulement l'autorité du père, mais elle détruit son autorité à elle, parce qu'elle a de l'autorité aussi. Mais si c'est correct de mépriser l'autorité du père, ben, pas pire de mépriser l'autorité de la mère. C'est pour ça que ces choses-là, la société aujourd'hui rejette, mais c'est le rôle que Dieu a fait quand il est fait pas comme dans la génération avant nous, puis pas comme dans la génération qu'on a, mais quand c'est fait selon le plan de Dieu, c'est merveilleux. C'est vraiment beau. Puis on voit des gens, parce qu'il y en a des gens qui ont vécu comme ça. Les maris qui ont pris soin de leurs femmes, les femmes qui se sont soumises à leur mari. Puis ils ont fait une belle vie, ont été heureux. Puis tandis que si on brise cet ordre-là, c'est le désordre, puis on n'est pas heureux là-dedans.
Merci Gérald. J'imagine qu'il devait y avoir une bonne différence d'âge entre Boaz et Ruth, parce qu'il lui dit, mais tu n'as pas recherché des jeunes hommes.
Ouais, c'est ça, on ne sait pas quel âge qu'il avait, mais ouais, on peut penser qu'il était plus âgé qu'elle.
Ouais.
T'as pas cherché, ouais, des jeunes gens, pauvres ou riches. Elle n'a pas gardé à son bien à elle. Elle a gardé pour la postérité. Ouais, ça peut être une observation qui lui était pas nécessairement jeune,
Ouais.
mais il était encore disponible.
Ouais.
Il avait été gardé pour Ruth.
J'aimerais ça, Gérald, que tu regardes dans Romains chapitre 10,
Oui.
le verset 6 et 7,
OK.
parce que tu mentionnais que la religion, c'est une échelle qu'on se crée
Ouais.
pour atteindre le ciel, puis on n'y arrive pas.
Ouais.
Et quand on lit peut-être dans Romains 10, 6 et 7, ça l'explique probablement ce que tu viens de dire.
Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est de faire remonter Christ d'entre les morts. Moi, ça, c'est un peu comme on juge, on dit, ah oui, c'est sûr que lui va aller au ciel. Pourquoi? Ben, parce qu'il a vécu une bonne vie. Mais ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. On pense. Puis, d'un côté, quand mon père est décédé, à sa funéraille, j'ai mentionné qu'il avait été sauvé. Puis ma sœur, elle m'a repris là-dessus. Elle a dit, à votre compte, il était sauvé. Mais j'ai dit, le larron sur la croix, Est-ce qu'il était sauvé parce qu'il a vécu une bonne vie? Elle dit, ben non. Il était sauvé parce qu'il a demandé au Seigneur. Puis j'ai dit, c'est la même chose. Mon père n'a pas été sauvé parce qu'il a vécu une bonne vie. Mon père était sauvé parce qu'il a demandé au Seigneur. Puis c'est ça, c'est pour ça qu'il disait d'en faire descendre Christ, parce que la justice qui vient par la foi, elle est imputée. Elle n'est pas gagnée. C'est une justice qui a été imputée par Dieu, qui nous a, on était des pécheurs. Quand on s'est repenti, qu'on a mis notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il nous a mis à notre compte, il nous a imputé sa justice. Est-ce que c'est ce que tu pensais, Lévi?
Oui, bien, moi, la manière je le vois, c'est que on ne peut pas monter au ciel par nos forces, par
Non.
nos choix. Christ est descendu pour ça.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et je le voyais dans l'autre côté. Ben, tu n'as pas à craindre de mourir parce que Jésus-Christ est allé au plus profond et est revenu.
Ouais, c'est
Moi,
ça.
je le voyais comme ça.
OK, ouais, c'est ça, c'est bon.
Oui. Donc, ça veut dire que la religion, elle a été accomplie parfaitement à travers le Seigneur.
C'est ça, ouais.
Pour se reposer sur la foi en lui, dans son œuvre.
Exactement. Bon, on va s'arrêter là, le temps est arrivé, on va prier. S'il y en a qui veulent continuer de jaser, on pourra le faire, mais ceux qui doivent partir, ils pourront partir. Seigneur notre Dieu, on te remercie d'avoir pourvu un salut si merveilleux pour nous. Merci notre Dieu qu'il est parfait en tout point, puis on se réjouit dans ton salut. Seigneur, on sait qu'on en avait tous besoin. S'il y en a qui ne sont pas encore sauvés, on te demande, Seigneur, que tu puisses révéler ce salut merveilleux où on peut se reposer. Comme le Seigneur Jésus a pu dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. On te remercie, Seigneur, pour ça. On te rend grâce pour ton amour. Merci pour tous ceux qui sont là ce soir. Mets ta bénédiction sur chacun, Seigneur, qu'on puisse grandir dans ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.